Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Uruguay soutient l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ouvrir l'ambassade d'Indonésie en Indonésie, l'Uruguay font des réunions bilatérales. La culture doit faire partie du progrès. Rétablissement naturel pour l'économie durable. La compétition de danse de lions et de dragons crée une nouvelle histoire dans le 6e Tafisa 2016. Six films indonésiens participent au Festival international de Busan. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a tenu des réunions bilatérales avec son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, à Jakarta le mardi 11 octobre 2016. Dans cette réunion, ils ont également discuté de la coopération dans le domaine des questions internationales. L'Indonésie et l'Uruguay ont convenu de se soutenir mutuellement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Uruguay soutiendra l'Indonésie comme le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019 jusqu'à 2020. Sur les questions internationales, nous avons convenu de se soutenir mutuellement au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous donnons le soutien à l'Uruguay et l'Uruguay soutiendra la candidature de l'Indonésie au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. La ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et l'Uruguay étaient d'accord pour mener une coopération dans les missions de paix du monde. Les deux pays sont les 20 premiers contributeurs de personnel dans les missions de la paix de l'ONU. L'Indonésie a le plus grand centre de la mission de maintien de la paix en Asie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a mené des réunions bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères de la République orientale de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, à Jakarta, mardi 11 octobre 2016. C'était la première visite officielle depuis l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1965. Cette visite est accompagnée par la délégation d'affaires qui assistera à Trade Expo qui commence le mercredi 12 octobre. À travers cette rencontre bilatérale, le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay a exprimé son intention d'ouvrir l'ambassade de l'Uruguay en Indonésie.
Kunjungan kali ini, Menteri Luar Negeri Uruguay membawa bahwa tahun depan Uruguay.
À cette visite, le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay porte le message que l'année prochaine, l'Uruguay ouvrira son ambassade à Jakarta. Et bien sûr, l'Indonésie bien apprécie le plan de l'ouverture de l'ambassade de l'Uruguay en Indonésie. La visite de la délégation commerciale à l'Indonésie est la réponse à la participation des petites et moyennes entreprises de l'Indonésie depuis 2008 à l'Expo Prado en Uruguay. La ministre Retno Marsudi encourage la coopération entre le secteur privé des deux pays à renforcer la coopération dans le domaine économique. À cette occasion, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un accord sur les domaines économiques et techniques. Lors de la réunion, a également discuté de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation. En 2016, 750 étudiants ont visité Bali. En outre, la protection contre l'équipage indonésien travaillant sur des navires étrangers autour de l'Uruguay est également un sujet de discussion. Le ministre apprécie la protection du gouvernement de l'Uruguay contre l'équipage des citoyens indonésiens en Uruguay. Le directeur de l'UNESCO en Indonésie, Shah Baskan, en marge de la mise en œuvre du Forum mondial de la culture, ou WCF, en 2016 à Nusa Dua, Bali, a affirmé que les grandes villes dans le monde faisaient face aux défis liés à l'effort pour créer une terre respectueuse de l'environnement, qui peut aussi offrir la même opportunité de vie pour la société. En outre, les défis urbains viennent aussi d'un aspect culturel qui devrait être utilisé aussi pour encourager la croissance dans les secteurs économiques. Il a donné un exemple, l'existence de la vieille ville de Jakarta qui a une valeur culturelle et le potentiel économique élevé qui peuvent être utilisés pour le progrès de Jakarta.
For example, Kota Tua is a Betawi old landscape.
Comme par exemple, Kota Tua est le paysage de Betawi qui est très beau. Il a beaucoup d'endroits intéressants, mais comment pouvons-nous utiliser cet avantage pour l'intérêt du peuple indonésien en ligne avec la modernisation? Et alors, comment pouvons-nous profiter du paysage, mais en même temps apporter la tradition et la culture? Shah Baskan, dans le symposium « Créer l'histoire, l'espace de ville et le mouvement culturel » mardi à Nusa Dua, Bali, a affirmé l'importance de la communauté à développer sur la base de l'histoire et l'expérience dans chaque pays et l'amener à un avenir qui remplit de défis et progrès. Il a déclaré que le WCF en 2016 sera un outil important pour concevoir le progrès des zones urbaine, en maintenant les traditions et la culture en tant que partie intégrante. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du village de Molo, Nusa Tenggara Est, Aleta Baun, a présenté sa lutte dans le village pour relancer l'économie des gens qui ne détruit pas la nature. Il a dit dans le Forum culturel mondial 2016 à Nusa Dua, Bali, mardi, que les efforts pour faire revivre les villages autochtones sont des efforts à faire pour encourager l'économie rurale durable. Le prochain défi est de savoir comment restaurer la nature endommagée et penser à l'avance pour rétablir une économie durable. Nous pensons que c'est difficile de trouver un moyen. Nous avons fait des discussions avec les chefs traditionnels, avec des jeunes. Nous avons fait un rituel et nous avons décidé de refuser l'économie qui détruit la nature et nos coutumes. Nous devons mettre en place la production de notre consommation. Selon Aleta Baun, à présent, le défi des communautés rurales augmente. C'est les impacts du changement climatique. Cela provoque la difficulté pour les villageois pour déterminer le moment de la plantation et affecte la disponibilité alimentaire dans la région. Les 18 équipes provenant de diverses provinces en Indonésie ont montré leur capacité dans la compétition de la danse de lion et de dragon à Ikovansion, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, mardi 11 octobre est le jour de pic de la mise en œuvre de championnat qui ne détermine pas seulement les gagnants, mais de rechercher l'amitié de la réunion des joueurs depuis l'organisation de cet événement le 9 octobre 2016. La compétition de la danse de lion et de dragon fait partie d'une série d'événements des 6e Jeux de Tafisa en 2016 Keoliu à Jakarta. Le secrétaire général de l'Union des Lions de Barongsai en Indonésie, Ripka Wijaya, a déclaré à la Voix de l'Indonésie à Jakarta que la compétition de la danse de lions et de dragons avait créé l'histoire pour l'équipe indonésienne. Le championnat mondial de la danse de lions et de dragons en Tafisa est la première activité. Si dans d'autres événements nous avons participé depuis 1978, mais c'est la première et ce championnat a créé l'histoire parce que dans ces activités, diverses provinces pouvaient participer activement et des différents pays sont également autorisés à envoyer son équipe. Il y avait le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong et le Chili. Ripka Wijaya a déclaré qu'aujourd'hui en Indonésie, il y a beaucoup d'adolescents qui sont intéressés à préserver la danse de lions et de dragons. Même son existence devient longtemps un art et un sport traditionnel pour certaines personnes comme l'Ouest de Kalimantan, Bangka Belitung et Banten. Par conséquent, Ripka espère le soutien du gouvernement indonésien pour que cet art traditionnel puisse être maintenu. Six films indonésiens participent au 21e Festival international du film de Busan, un plus grand festival du film d'Asie tenu du 8 au 14 octobre 2016 à Busan, en Corée du Sud. L'information de l'ambassade d'Indonésie à Séoul reçue mardi à Jakarta a affirmé que la participation des cinéastes indonésiens à ce festival du film était soutenue par l'Agence de l'économie créative. Pour augmenter les chances de cinéastes indonésiens d'interagir avec des investisseurs potentiels, l'Agence de l'économie créative a également organisé un événement pour construire un réseau intitulé Nuit indonésienne lundi soir à Hotel Park Hyatt à Busan. Cependant, le directeur du marketing international de l'Agence de l'économie créative, Boni Pujianto, a déclaré que la promotion des œuvres des jeunes cinéastes de l'Indonésie à travers le marché du film asiatique était une partie importante du festival. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La Turquie joue en deux pieds. La Turquie a des relations diplomatiques avec les deux pays, à savoir la Russie et l'Israël. Mais elle face aux graves problèmes avec ces deux pays. La Turquie est en train de rétablir les relations. Cet effort est basé sur les motifs économiques, surtout l'énergie. Avec l'Israël, la Turquie intensifie les relations de coopération dans le domaine de l'énergie. Cela est réalisé par la visite du ministre israélien des infrastructures, de l'énergie et des ressources en eau d'Israël, Yuval Stennis, à la Turquie le jeudi 13 octobre. Cette visite sera la première au niveau ministériel entre les deux pays. Actuellement, en Turquie, Stennis rencontrera son homologue Berat Albayrak. Les deux pays intensifient d'établir les relations après la signature d'un accord de rétablissement des relations diplomatiques en juin dernier. La Turquie a déposé trois conditions et deux ont été respectées par l'Israël, à savoir verser une indemnisation aux victimes d'une attaque du Mavi Marmara en 2010 d'un montant de 20 millions de dollars américains. Et des excuses officiellement sur l'incident. Troisièmement, la suppression du blocus sur Gaza. La Palestine est seulement accordée sous la forme d'assouplissement du blocus et de permettre à la Turquie d'envoyer à l'aide à Gaza en Palestine. D'autre part, la Turquie a également essayé de rétablir les relations avec la Russie qui était en colère après l'incident de tir d'avion russe par la Turquie en novembre l'année dernière. La Turquie a officiellement présenté ses excuses et la Russie a accepté. Lundi 10 octobre, le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Istanbul pour la première fois depuis l'incident. Poutine veut rencontrer le premier ministre turc Erdogan et a assisté au Congrès mondial de l'énergie. Auparavant, les deux dirigeants se sont rencontrés en Russie et au sommet du G20 en Chine. Lors d'une rencontre avec M. Erdogan, M. Poutine a déclaré que les relations bilatérales avec la Turquie avaient récupéré. Poutine était encore reconnaissant pour les efforts d'Erdogan d'améliorer les relations. Erdogan soutient également la déclaration en disant que la normalisation des relations va se poursuivre. L'objectif de cette normalisation est la reconstruction d'un pipeline de gaz de la Russie vers l'Europe via la mer Noire de la Turquie. Précédent réseau de gaz avait été construit avec l'Union européenne, mais a été abandonné. Lorsque la Russie s'est tournée vers la Turquie et le réseau a été construit, l'incident de terre de l'aviation russe a eu lieu. Maintenant, bien que les relations soient rétablies, la position des deux pays sur la question de Syrie avérait être le contraire. La Russie soutient le régime de Bachar al-Assad. La Turquie veut la chute du régime. La politique de la Turquie doit être appréciée et on espère qu'il y a l'amélioration de la situation dans la région, à la fois en ce qui concerne les Palestiniens avec la Syrie. Relanchement le blocus de Gaza, il est un pas en avant. Espérons que la Turquie peut demander à l'Israël de réduire le développement de colonies juives sur la terre palestinienne, bien qu'il soit négocié par la coopération économique. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la Guinée équatoriale en petit pays dans l'Afrique centrale et indépendant de l'Espagne le 12 octobre 1968. La République de Guinée équatoriale est le seul pays en Afrique qui parle espagnol, dont la plupart est encore couverte par les forêts. Située dans le golfe de Guinée, la côte ouest de l'Afrique, avec les pays voisins, le Gabon au sud et à l'est, et le Cameroun au nord. La Guinée équatoriale est incluse dans un mini-État en Afrique. L'autre information est sur Pervez Musharraf, est revenu au pouvoir au Pakistan par l'intermédiaire d'un coup d'État non violent. Pervez Musharraf est un général et homme d'État pakistanais, président de la République de 2001 à 2008. À la suite d'un coup d'État non violent, il a été à la tête du Pakistan du 12 octobre 1999 au 18 août 2008, mais officiellement président de la République seulement du 20 juin 2001 au 18 août 2008. À la période du 12 octobre 1999 au 23 novembre 2002, Pervez servit le premier ministre. Le 6 octobre 2007, il a réélu en tant que président du Pakistan pour la troisième période. Pervez a démissionné le 18 août 2008 en raison des menaces de destitution du gouvernement de coalition dirigé par Asif Ali Zardari, le mari du défunt de l'ancien premier ministre Benazir Bhutto. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le premier attentat de Bali. Les attentats de Bali sont un double attentat à la bombe qui s'est produit le 12 octobre 2002 dans la ville de Kuta sur l'île indonésienne de Bali, tuant des centaines de personnes et en blessant 109 autres. La plupart des victimes étaient des touristes étrangers, principalement australiens. Cette attaque est considérée comme l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis longtemps, nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre, les bioplastiques deviendront les normes des produits de sacs en plastique. Les plastiques fabriqués à partir de la biomasse qui sont facilement biodégradables dans le sol ou communément appelés bioplastiques vont bientôt devenir l'une des normes dans les critères de produits du sac en plastique décollable. C'est ce qu'a déclaré le chef du Centre de la normalisation de l'environnement et des forêts du ministère de l'Environnement et des forêts, Nur Adi Wardoyo, vendredi. Selon lui, en vote direct pour la révision de la norme nationale indonésienne SNI des sacs en plastique est réalisé à l'Agence nationale de normalisation. Le vote direct final sera effectué le 17 octobre 2016. Il a estimé que la détermination du projet de la norme nationale indonésienne sera réalisée en novembre 2016 s'il n'y a pas de réponse négative de l'Agence nationale de normalisation. Nur Adi expliquait l'ajout des critères de bioplastique pour la norme nationale indonésienne des sacs en plastique écolables est en fait une forme d'accord de réduction des déchets qui se trouve dans les sites d'enfouissement. En effet, les sacs de la biomasse ne nécessitent pas le recyclage à nouveau ou tout simplement déchirés ou coupés et enterrés dans le sol jusqu'au sac de biomasse se décompose naturellement par des microbes dans le sol. Comme par exemple, les bioplastiques proviennent de l'amidon de manioc, l'onde et NV+, qui est capable d'être recyclé naturellement par des microbes dans le sol en moins de 3 à 6 mois. Le chef chargé de la normalisation de produits du Centre de la normalisation de l'environnement et des forêts, Nur Mayanti, a expliqué que la révision de la norme nationale de l'Indonésie était le projet de la norme nationale indonésienne 3 en utilisant l'Organisation internationale pour la standardisation 14020, à savoir un modèle de la certification des produits qui donne l'assurance au marché que le processus qui se fait dans le système de production est le processus respectueux de l'environnement où les produits peuvent être recyclés et les critères sont faits à la norme d'Indonésie. Selon Nur Mayanti, essentiellement, la norme nationale indonésienne est différente aux critères du ministère de l'Industrie qui priorise la qualité des produits, alors que les critères du ministère de l'Environnement et des Forêts sont sur des critères environnementaux en priorisant le principe de réduire, réutiliser et recycler. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a tenu des réunions bilatérales avec son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, à Jakarta le mardi 11 octobre 2016. Dans cette réunion, ils ont également discuté de la coopération dans le domaine des questions internationales. L'Indonésie et l'Uruguay ont convenu de se soutenir mutuellement au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Uruguay soutiendra l'Indonésie comme le membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019 jusqu'à 2020. Sur les questions internationales, nous avons convenu de se soutenir mutuellement au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous donnons le soutien à l'Uruguay et l'Uruguay soutiendra la candidature de l'Indonésie au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. La ministre Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et l'Uruguay étaient d'accord pour mener une coopération dans les missions de pays du monde. Les deux pays sont les 20 premiers contributeurs de personnel dans les missions de la paix de l'ONU. L'Indonésie a le plus grand centre de la mission de maintien de la paix en Asie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a mené des réunions bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères de la République orientale de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, à Jakarta, mardi 11 octobre 2016. C'était la première visite officielle depuis l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1965. Cette visite est accompagnée par la délégation d'affaires qui assistera à Trade Expo qui commence le mercredi 12 octobre. À travers cette rencontre bilatérale, le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay a exprimé son intention d'ouvrir l'ambassade d'Uruguay en Indonésie.
Kunjungan kali ini, Menteri Luar Negeri Uruguay membawa bahwa tahun depan Uruguay.
À cette visite, le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay porte le message que l'année prochaine, l'Uruguay ouvrira son ambassade à Jakarta. Et bien sûr, l'Indonésie bien apprécie le plan de l'ouverture de l'ambassade de l'Uruguay en Indonésie. La visite de la délégation commerciale à l'Indonésie est la réponse à la participation des petites et moyennes entreprises de l'Indonésie depuis 2008 à l'Expo Prado en Uruguay. La ministre Retno Marsudi encourage la coopération entre le secteur privé des deux pays à renforcer la coopération dans le domaine économique. À cette occasion, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un accord sur les domaines économiques et techniques. Lors de la réunion, a également discuté de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation. En 2016, 750 étudiants ont visité Bali. En outre, la protection contre l'équipage indonésien travaillant sur des navires étrangers autour de l'Uruguay est également un sujet de discussion. Le ministre apprécie la protection du gouvernement de l'Uruguay contre l'équipage des citoyens indonésiens en Uruguay. Le directeur de l'UNESCO en Indonésie, Shah Baskan, en marge de la mise en œuvre du Forum mondial de la culture au WCF en 2016 à Nusa Dua, Bali, a affirmé que les grandes villes dans le monde faisaient face aux défis liés à l'effort pour créer une terre respectueuse de l'environnement, qui peut aussi offrir la même opportunité de vie pour la société. En outre, les défis urbains viennent aussi d'un aspect culturel qui devrait être utilisé aussi pour encourager la croissance dans les secteurs économiques. Il a donné un exemple, l'existence de la vieille ville de Jakarta qui a une valeur culturelle et le potentiel économique élevé qui peuvent être utilisés pour le progrès de Jakarta.
For example, Kota Tua is a Betawi old landscape.
Comme par exemple, Kota Tua est le paysage de Betawi qui est très beau. Il a beaucoup d'endroits intéressants, mais comment pouvons-nous utiliser cet avantage pour l'intérêt du peuple indonésien en ligne avec la modernisation? Et alors, comment pouvons-nous profiter du paysage, mais en même temps apporter la tradition et la culture? Shah Baskan, dans le symposium « Créer l'histoire, l'espace de ville et le mouvement culturel » mardi à Nusa Dua, Bali, a affirmé l'importance de la communauté à développer sur la base de l'histoire et l'expérience dans chaque pays et l'amener à un avenir qui remplit de défis et progrès. Il a déclaré que le WCF en 2016 sera un outil important pour concevoir le progrès des zones urbaine, en maintenant les traditions et la culture en tant que partie intégrante. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du village de Molo, Nusa Tenggara Est, Aleta Baun, a présenté sa lutte dans le village pour relancer l'économie des gens qui ne détruit pas la nature. Il a dit dans le Forum culturel mondial 2016 à Nusa Dua, Bali, mardi, que les efforts pour faire revivre les villages autochtones sont des efforts à faire pour encourager l'économie rurale durable.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana
Le prochain défi est de savoir comment restaurer la nature endommagée et penser à l'avance pour rétablir une économie durable. Nous pensons que c'est difficile de trouver un moyen. Nous avons fait des discussions avec les chefs traditionnels, avec des jeunes. Nous avons fait un rituel et nous avons décidé de refuser l'économie qui détruit la nature et nos coutumes. Nous devons mettre en place la production de notre consommation. Selon Aleta Baoun, à présent, le défi des communautés rurales augmente, c'est les impacts du changement climatique. Cela provoque la difficulté pour les villageois pour déterminer le moment de la plantation et affecte la disponibilité alimentaire dans la région. Les 18 équipes provenant de diverses provinces en Indonésie ont montré leur capacité dans la compétition de la danse de lion et de dragon à Ikovansion, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, mardi 11 octobre, et le jour de pic de la mise en œuvre de championnat qui ne détermine pas seulement les gagnants, mais de rechercher l'amitié de la réunion des joueurs depuis l'organisation de cet événement le 9 octobre 2016. La compétition de la danse de lion et de dragon fait partie d'une série d'événements des 6e jeux de Tavisa en 2016 qui ont lieu à Jakarta. Le secrétaire général de l'Union des Lions de Barongsai en Indonésie, Ripka Wijaya, a déclaré à la Voix de l'Indonésie à Jakarta que la compétition de la danse de lion et de dragon avait créé l'histoire pour l'équipe indonésienne. Le championnat mondial de la danse de lion et de dragon en Tavisa est la première activité. Si dans d'autres événements, nous avons participé depuis 1978, mais c'est la première et ce championnat a créé l'histoire parce que dans ces activités, diverses provinces pouvaient participer activement et des différents pays sont également autorisés à envoyer son équipe. Il y avait le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong et le Chili. Ripka Wijaya a déclaré qu'aujourd'hui en Indonésie, il y a beaucoup d'adolescents qui sont intéressés à préserver la danse de lion et de dragon. Même son existence devient longtemps un art et un sport traditionnel pour certaines personnes comme l'ouest de Kalimantan, Bangka Belitung et Banten. Par conséquent, Ripka espère le soutien du gouvernement indonésien pour que cet art traditionnel puisse être maintenu. Six films indonésiens participent au 21e Festival international du film de Busan, un plus grand festival du film d'Asie tenu du 8 au 14 octobre 2016 à Busan, en Corée du Sud. L'information de l'ambassade d'Indonésie à Séoul reçue mardi à Jakarta a affirmé que la participation des cinéastes indonésiens à ce festival du film était soutenue par l'Agence de l'économie créative. Pour augmenter les chances de cinéastes indonésiens d'interagir avec des investisseurs potentiels, l'Agence de l'économie créative a également organisé un événement pour construire un réseau intitulé Nuit indonésienne lundi soir à Hotel Park Hyatt à Busan. Cependant, le directeur du marketing international de l'Agence de l'économie créative, Boni Pujianto, a déclaré que la promotion des œuvres des jeunes cinéastes de l'Indonésie à travers le marché du film asiatique était une partie importante du festival. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à Bandung, la province de Java West. Chers auditeurs, Bandung à Java West est célèbre avec de beaux paysages. En outre, la ville surnommée la ville des fleurs est aussi célèbre avec le goût délicieux de divers aliments. Ces aliments et créations de la communauté locale d'aujourd'hui deviennent les aliments populaires qui doivent être goûtés. L'un d'eux est kupat tahu gempol. Kupat tahu gempol est déjà bien connu à Bandung. Le vrai nom de ce repas est kupat tahu. Cependant, c'est parce qu'autrefois, le warung qui vend kupat tahu se trouve sur la rue Gempol. Les gens locaux sont appelés ce repas avec kupat tahu gempol. Jusqu'à présent, le warung est toujours là. Le warung qui se tenait depuis 1965 est hérité en héréditaire par la famille fondatrice. Par conséquent, ce goût culinaire ne change pas et est toujours en favori. Kupat tahu gempol est toujours présent dans chaque festival culinaire tenu à Bandung ou d'autres villes. Cela prouve que cette cuisine est l'une des icônes culinaires de Bandung. Kupat tahu contient le tofu, les herbes de soja et ketupat ou riz préparé dans une feuille de cocotier tressée en losange, aspergée à la sauce d'arachide et saupoudrée avec des craquelins rouges. Le tofu utilisé dans ce repas provient de la région Cibuntu, Bandung, parce que ce tofu a la texture moelleuse et souple. Et le tofu est frit mi-cuit. Jusqu'à présent, le warung kupat tahu gempol est encore très fréquenté par les acheteurs. Le prix d'une portion de simple repas qui a un goût délicieux est très abordable, seulement 15 000 rupiah. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui ont le projet d'aller à Bandung, ne pas oublier d'arrêter au warung kupat tahu gempol et goûter ce repas délicieux qui est légendaire. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Kupat tahu gempol. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Chers amis, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est membeli minuman. Membeli minuman. Ou en français, acheter une boisson. Restez avec nous sur www.voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répéterez après. Bonne écoute. Permisi. Permisi. En français, excusez-moi. Kami telah menjual. Kami telah menjual. Nous avons vendu. Membeli. Membeli, acheter. Yogurt, yogurt, En français, le yaourt. Strawberry. Strawberry. En français, la fraise. Bottle. Bottle. En français, la bouteille. Soda. Soda. En français, l'eau de cette. Total semuanya. Total semuanya. En français, le total. Uang receh. Uang receh. Les monnaies. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Membeli minuman » ou en français « Acheter une boisson ». C'est une conversation entre serveuse A et l'acheteur B. A. Permisi, di mana saya bisa membeli yogurt? Permisi. Di mana saya bisa membeli yogurt? En français. Excusez-moi, où est-ce que je peux acheter du yaourt? B. Kami menjualnya. Kami menjualnya. En français, nous en vendons. A. Apakah ada yogurt rasa stroberi? Apakah ada yogurt rasa stroberi? En français, avez-vous un yaourt de la fraise? B. Ada. Mau berapa botol? Ada. Mau berapa botol? En français, oui, vous voulez combien de bouteilles? A. Saya mau tiga botol yogurt dan juga empat botol soda. Saya mau tiga botol yogurt dan juga empat botol soda. En français, je voudrais trois bouteilles de yaourt et quatre bouteilles d'eau de seltz, s'il vous plaît. B. Masih ada lagi? Masih ada lagi? En français, vous voulez d'autres choses? A. Tidak. Tidak. En français, non. B. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. A. Berapa total semuanya? Berapa total semuanya? En français, combien je vous dois? B. 25.000 rupiah. 25.000 rupiah. En français, 25.000 rupiah. A. Ini uangnya. Ini uangnya. En français, voilà. B. Apakah Anda ada uang receh? Apakah Anda ada uang receh? En français, vous avez de monnaie? A. Ada. Ada. En français, oui, j'en ai. B. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. En français, merci beaucoup. Chers auditeurs, voilà l'apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Au revoir.
Serge Ritter, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditrices de RRI World Service, la voix de l'Indonésie où que vous soyez, on se retrouve dans la rubrique musique indonésienne. Dans cette édition, nous vous présentons un chanteur indonésien qui souvent chante les chansons de la musique country. Chers amis, je vous présente une chanson de Tanto Yahya, Hidup Terkekang, ou en français, La vie sobre.
Apakah ku tak boleh mengenal dunia ini? Haruskah daku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Apakah ku tak boleh sayang dari seseorang yang ku cintai? Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang
Chers auditeurs, cette chanson que vous venez d'écouter, Hidup Terkekang ou La vie sobre en français, a été réarrangée comme une chanson country par Tantowi Yahya. La chanson originale, qui était écrite par le groupe de Panbirds, était très célèbre dans les années 1970. Cette chanson est l'une des chansons dans l'album de la musique country de Tantowi Yahya. Presque toutes les chansons dans cet album sont les chansons qui étaient populaires au passé. Tantowi Yahya, avec sa musique de country, arrive à enrichir la diversité de la musique indonésienne. D'autres chansons qui appartiennent à cet album est celle d'origine d'un groupe légendaire d'Indonésie, Kus Plus, dont le titre est Hidup Kusunyi, ou en français, Ma vie est vide. Merci chers amis de rester avec moi dans la rubrique de musique indonésienne. Vous venez d'écouter une chanson qui a été écrite par Kus Plus, Hidup Kusunyi ou Ma vie est vide. Les paroles s'agissent de l'importance de l'esprit dans la vie pour gagner tous les meilleurs. Personne ne peut vivre seul et sobre dans toute sa vie. Tantowi Yahya était précédemment connu comme un présentateur des émissions dans la télévision. Il a gagné tant de succès comme un chanteur qu'un présentateur. Récemment, il participe à la Chambre des représentants du peuple et il ne chante pas beaucoup comme avant. Chers amis, on arrive à la fin de la rubrique de musique indonésienne et je vous présenterai trois chansons de Tantowi Yahya dont les titres sont Patah Hati, Randu et Pusara Cinta ou en français Cœur brisé, Le Capoquier et Le Tombeau d'amour. Merci de rester avec nous et on se retrouvera à la prochaine fois. Toujours à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, depuis Jakarta.
Jadinya merana berputus asa, merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Aku berdosa derita menanggung rindu. Bila ku terkena
auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.